Et c'est vrai qu'en ce moment, donc il y a un vent de folie un peu sur le pays. Hein. C'est vrai que bon, on a assisté malheureusement à une campagne qu'on n'a jamais connue, c'est vrai. Hein. Et c'est toujours désolant parce que hein, on entend un tel est contre un autre, il a droit à tous les qualificatifs, et à l'inverse, enfin, on se lance à la figure vraiment des choses épouvantables. Et même, hein, ce matin, en voyant dans le métro, ça y est, maintenant, on va vers un suicide national. Vous voyez, enfin bon, tout est bon. Hein. Et donc, alors il y a des extrêmes, il y a des utopistes, ils ont la solution, ils savent ce qu'il faut pour que tout aille bien. Et puis à l'inverse, eh bien, il y a les pessimistes, qui, c'est le choc, chaos irrémédiable, c'est sûr, hein, on va vers la catastrophe. Vous voyez, bon, c'est ça. Et donc, et ce qui est le plus terrible, c'est que les uns se réclament de l'évangile pour voter pour l'un, et d'autres se réclament de l'évangile pour voter pour l'autre. Eh oui, hein. Il ne faut pas t'étonner, vous savez, au temps de Jésus, il y en a qui auraient très bien pu Jésus passer pour un révolutionnaire. Bon, un anarchiste, ou quand il disait faut rendre à César ce qu'à César, c'est un collabo, hein, et tout. Chacun pouvait se réclamer de Jésus. Vous savez, un jour tout genou fléchira, mon Dieu, hein, on ne demandera pas quelle est votre affiliation au parti politique, tout genou fléchira. Et donc on a besoin un peu de retrouver, je crois, un peu de sagesse, hein, et dans cet entre-deux-tours présidentiel, je voulais inviter, moi, ce matin, donc au dernier moment, j'ai dit, moi, je peux pas, mais je vais inviter quelqu'un qui va parler à ma place. Un homme dont le témoignage est intéressant, et il va raconter ce qu'il sait, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a expérimenté, en fait. Et ce qu'on peut attendre de la vie pour être heureux, sur cette terre, bien sûr. Et on aurait aimé, effectivement, qu'il soit candidat. On n'a pas vu sa tête, hein, sur les affiches, non, non. Hein. Et les milliers de personnes qui ont pu être dans les salles, dans les meetings, j'aurais voulu qu'elles soient là pour entendre ce que cet homme a à dire. Peut-être qu'ils l'entendront, d'ailleurs. Entre autres, parmi ces déclarations, je vous fais une de ces déclarations. Hein. Vous ne l'avez peut-être pas lu, mais on pourrait lire. Si tu vois dans une région que les pauvres sont opprimés, que la justice et le droit sont bafoués, ne t'étonne pas trop de la chose, car chaque fonctionnaire est subordonné à un supérieur, et au-dessus d'eux, il y a encore des supérieurs hiérarchiques. Malgré tout, c'est encore un avantage pour un peuple d'avoir un roi qui règne sur un champ bien cultivé et auquel le pays est soumis. Cette formulation, ça veut dire que il y a des hiérarchies, hein, et que chaque fonctionnaire est subordonné à un supérieur, et donc de ce fait-là, il y a des pressions, et il ne faut pas s'étonner s'il y a une corruption interne dans l'administration. C'est ce que ça veut dire, en fait. Hein, bon. Et qui a écrit ces réflexions? C'est aucun des candidats pour lesquels on sera prêt à voter. Non, hein. C'est quelqu'un qui a dit beaucoup de choses, un homme rempli de la sagesse de Dieu. Vous avez deviné qui c'était? C'est M. Kohelet, oui, en hébreu il s'appelle M. Kohelet. Et en français, c'est Monsieur Ecclésiaste. Parolio, son prénom, non, hein, vous ne vous trompez pas, c'est Parolio. Hein. Ecclésiaste, ça veut dire, c'est un du grec, ça veut dire, hein, on aurait pu l'appeler le sage, mais lui-même n'a pas voulu qu'on l'appelle le sage, parce qu'en fait, il dit qu'il n'a pas trouvé la sagesse. Nous, on va l'appeler le maître. Mais Ecclésiaste veut dire celui qui, dans une assemblée, enseigne, qui apporte la sagesse, en fait. Et on a attribué, c'est vrai que, bon, beaucoup le pensent, ça n'a pas grand importance, mais je vous signale, on attribue ce livre à Salomon, mais en fait, non. L'auteur met en scène un personnage qui, effectivement, se dit fils de David, il a régné à Jérusalem, il a eu beaucoup de pouvoir, il a eu beaucoup de femmes, tout ça, et il a beaucoup de traits communs avec Salomon, mais jamais on parle de Salomon, en fait, hein, alors que dans les Proverbes, par exemple, on en parle, mais c'est l'auteur qui met en scène ce personnage. Bon, ça n'a pas grande importance, mais il n'est pas sûr du tout que ce soit Salomon, ouais, du tout. Mais il a été inspiré par Salomon. Voilà. Donc c'est un livre bien connu, hein, qui n'a pas lu l'Ecclésiaste, en fait. Ça se lit facilement, comme les livres des Proverbes, d'ailleurs, en fait. Et on est frappé parce qu'il y a des affirmations qui sont frappées au coin du bon sens, comme un temps pour chaque chose, bien sûr. Hein. Parfois ça nous étonne, vanité des vanités, tout des vanités. Ça nous intrigue, on est parfois déconcerté, rien de nouveau sous le soleil. Et on se pose la question, mais en quoi ce livre peut-il avoir sa place dans des livres inspirés par le Saint-Esprit? Vous avez déjà posé la question? D'autant qu'à la lecture de ce livre, vous savez, il en ressort des fois une sorte de pessimisme désabusé, alors que la parole de Dieu devrait nous stimuler, elle devrait nous enthousiasmer. Et quelque part, quand on lit ce livre, on dit, c'est bizarre comme réaction. Bon. Donc ce matin, je vous invite, on va quand même nous plonger dans ce livre, et on va essayer de trouver le message que le maître veut nous enseigner. D'abord, un premier point, c'est que tout ce qui est écrit s'adresse en fait à des croyants. On pourrait croire que c'est écrit à des personnes qui vivent sans Dieu et que le maître est en train de dire c'est une vanité que de vivre sans Dieu. En fait, c'est pas ça, c'est pas le propos du livre, parce qu'en fait, pratiquement à chaque chapitre, il est fait mention de Dieu. À chaque chapitre. On parle de Dieu, d'un Dieu qui donne des bonnes choses. Je vous invite, bon, hein, vous pouvez regarder, je vais vous donner quelques citations, on lira des versets ensemble, mais là, bon, par exemple, en 2.24, par exemple, il va dire qu'il n'y a rien de mieux à faire pour l'homme que de manger, boire, jouir du bonheur au milieu de son labeur. Mais j'ai constaté que cela aussi vient de Dieu. En effet, qui peut manger et profiter de la vie, sinon celui qui le reçoit de Dieu. Et souvent, il y a beaucoup de citations où il est dit que les bonnes choses, c'est Dieu qui nous les donne. Bon, un autre exemple, par exemple, 5, 17, 18, j'ai constaté que donc le bonheur, c'est manger, boire, etc., sous le soleil, pendant les jours que Dieu lui donne à vivre. Bon, trouver la joie dans son travail, c'est un don de Dieu. Bon, 9, 7, 9, bon, va manger ton pain dans la joie de bon cœur, car Dieu prend plaisir, etc., l'existence que Dieu accorde. En fait, tout vient de Dieu, le maître en est conscient, et il sait que les lecteurs en sont conscients. Donc c'est déjà pas au départ, c'est pas un tableau où tout est noir, parce que Dieu est présent dans tout, dans toutes ses réflexions, dans tout ce qu'il voit. Dieu est là et Dieu est concerné. D'accord ? Alors qu'est-ce qu'il veut dire ? Maintenant, on va essayer de cheminer à travers sa pensée. Il commence par un constat. Hein, ce constat, on va le lire ensemble. Hein, dès le premier chapitre, premier verset. Hein, parole donc de l'Église, fils de David, roi de Jérusalem, mais pas sûr que ce soit Salomon. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité, toutes des vanités. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupira après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis tourne encore et reprend le même circuit. Tous les fleuves vont à la mer n'est point remplie, il continue d'aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui était, c'est ce qui sera, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il y a une chose dont on dit, tiens, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui l'ont précédé. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, ce qui arrivera dans la suite ne sera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Donc on a compris, c'est un constat, hein, que génération en génération, pour lui, il n'y a rien qui change. Et les choses se répètent. Ça change ni dans l'état, ni dans l'action. Donc, lui se situe comme étant de passage sur une terre où on voit les lois de la nature. Vous voyez, il a dit lever de soleil, coucher de soleil, les vents qui tournent dans tous les sens, les fleuves qui vont à la mer. Bon. Et dans tout cela, l'homme n'y est pour rien. Il constate impuissant. Et encore, je dirais, aucune illusion à se faire pour lui en pensant que les générations à venir vont connaître un meilleur sort. Absolument pas. La génération nouvelle ne trouvera pas davantage la solution, je dirais, ni les moyens d'être plus heureuse que la précédente. Alors, on a lu donc, hein, verset 9 et 10, là, vous voyez, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Donc, ne vous faites pas d'illusions pour lui d'apporter quelque chose qui soit neuf, hein, et pourtant, hein, on va le voir, il ne nie pas les progrès technologiques, il ne nie pas les progrès scientifiques, mais lui, malgré tous ces progrès, l'homme sur Terre n'est pas plus heureux qu'avant. Sa condition est toujours la même. Donc c'est un peu décevant comme constat, vous savez. Hein, et pour lui, rien ne permet à l'homme d'échapper. Il dira au verset 10 du chapitre 7, « Garde-toi de dire comment cela se fait-il que les choses allaient mieux qu'aujourd'hui, car ce n'est pas la sagesse qui te dit une telle chose. » Ça veut dire, ça n'ira pas mieux demain, mais ce n'était pas pour autant mieux hier. Donc, constat désabusé, là. Et surtout, il y a un mot qui sort de là, c'est une profonde insatisfaction, on l'a lu, l'œil n'est jamais rassasié, hein, et l'oreille n'est jamais remplie. D'accord. Donc, mouvement cyclique, mais ça recommence toujours pour lui. Alors, réfléchissons déjà un peu. C'est vrai qu'on voudrait que ça change, je crois. On aimerait que ça change. Que la société soit meilleure, qu'il y ait plus de justice, j'espère, hein, que c'est sur votre attente. Hein. Mais quelqu'un a dit, si tu veux voir quelque chose que tu n'as jamais vu, tu dois faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Ça veut dire que là, on est ramené non pas à ce qui se passe autour de nous, mais à ce que nous, on vit, la façon dont on vit. Et on sait que le véritable changement ne viendra pas des circonstances extérieures, ne viendra changement du cœur. C'est le cœur qui doit changer. Donc, c'est vrai qu'on est dans un pays où tout le monde voudrait que ce soit mieux, tout le monde voudrait qu'il y ait plus de justice, tout le monde voudrait que tout le monde ait des meilleures conditions de vie, etc. Bon, hein, mais ça ne viendra pas d'un programme politique, désolé, hein, ça ne viendra pas d'un changement de... même si on change des lois et tout, on peut être heureux avec peu de choses, et il y en a qui ont tout qui sont malheureux. Ça viendra d'un changement du cœur. On le sait, mais nous qui le savons, on sera amené aussi à peut-être partager nos convictions à ceux qui ne savent pas. D'accord. On en reparlera. Donc, le maître va se poser la question. Ensuite, après ce constat, donc, où trouver le bonheur? Que faire pour être heureux? Est-ce qu'on peut échapper à cette condition d'insatisfaction de la vie humaine? Et pour lui, sa réponse, elle est sans appel. Rien ne permet à l'homme d'échapper à sa condition. Impossible. Je parle condition de vie sur Terre. Aucune illusion sphère, donc c'est le lot de tous, qu'on soit croyant ou pas, qu'on soit sage ou insensé, pour lui, on ne peut pas y échapper. Donc il a quand même cherché, lui. Il a cherché à être heureux. Sa première recherche, c'était dans la sagesse. Hein, si vous lisez avec moi, donc chapitre 1, à partir du verset 16, il dit « J'ai dit à mon cœur, voici, j'ai grandi, j'ai surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. » Donc, il a cherché, effectivement. Il ne dit pas que la sagesse ne sert à rien. Parce qu'il va dire, voyez, au chapitre 2, regardez au verset 13, « J'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. » Le sage a ses yeux à la tête, ça veut dire qu'il a les yeux pour voir, donc, alors que l'insensé marche dans les ténèbres. Donc, vaut mieux être sage, mais il voit tout de suite les limites de la sagesse. Et une des limites, c'est qu'on a beau être sage, on ne connaît pas l'avenir. Eh oui, on ne connaît pas. Hein. Il y a une frustration par rapport à ce qu'il y a après. En 3.11, il va dire... Il a planté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit de commencement à la fin. C'est vrai que le maître, au stade de sa réflexion, n'a pas connu ce que Jésus est venu apporter sur terre, c'est vrai. Il ne connaît pas ce passage que la résurrection a frayé à travers la mort, qui nous permet de déboucher sur l'éternité. Mais il est quand même convaincu d'une chose, c'est que cette pensée de l'éternité, Dieu l'a mis dans le cœur de chacune de ses créatures. Il a mis, au tréfonds de l'être humain, le sens de l'éternité. C'est important, ça. Parce que ça veut dire que personne n'aura l'excuse de dire la mort, c'est la fin de tout. Même si on veut s'en persuader. Ce qui veut dire que un jeune qui est découragé, qui se suicide, parce qu'il est désespéré, c'est pas la bonne solution. On voit de plus en plus des gens qui vont vers le suicide assisté, c'est pas la solution. On sait que la mort n'est pas la fin de tout. Il y a une éternité. Même si, maintenant, le maître dit, l'éternité, on ne sait pas trop. On ne sait pas, mais il est persuadé, convaincu qu'il y a une vie après. Mais il fait ce constat d'ignorance, et là, bon, je ne vais pas vous citer tous les versets, mais par exemple, il dira, 7.14, l'homme ne peut rien découvrir de ce qui doit lui arriver après. 9.12, l'homme ne sait pas ce qu'il attend. 10.14, l'homme ignore l'avenir, personne ne peut lui révéler ce qui arrivera après lui. Donc, c'est l'incertitude. Et ça, quelque part, il va même dire, et là, vous allez lire avec moi, vous voyez, en 8.17, j'ai vu toute l'œuvre de Dieu, j'ai vu que l'homme ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas, et même si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver. Non, on ne comprend pas, on ne sait pas. Donc, la sagesse, elle a ses limites. Du coup, il dit, pour être heureux, on va peut-être profiter des plaisirs que la vie nous offre. Et là, vous lisez avec moi, il a cherché vraiment dans ce que la vie lui propose. Donc, chapitre 2, j'ai dit à mon cœur, alors je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Mais voici, c'est encore de la vanité. Autrement dit, les plaisirs, c'est pas ça. Le rire et la joie. De deux, du rire, j'ai dit, c'est absurde, de la joie, quoi cela m'avance-t-il? De trois, il cherche dans le vin tout ce qui peut étourdir, faire perdre l'essence. J'ai décidé de m'adonner au vin, tout en continuant à me conduire avec sagesse, j'ai résolu de me lancer dans la folie. Et il continue, il va essayer les grandes entreprises, les progrès, les biens, l'argent, les femmes, le pouvoir, les jouissances. Autrement dit, tout ce que les gens cherchent en ce monde, dans un matérialisme effréné, mais c'est décevant. Il ne trouve pas le bonheur dans les biens matériels, dans tout ce que la vie propose. Pour lui, on peut être l'homme le plus sage, le plus puissant, le plus riche, le plus connu, le plus considéré, on n'est pas pour autant l'homme le plus heureux. Si nos candidats au pouvoir et tous ceux qui veulent à tout prix diriger pour en prendre conscience. Bon. D'autant qu'un jour, même si c'était le cas, on a tous les points. Arrive la mort. Eh oui, la mort, elle est là. Et moi, j'aime beaucoup l'Ecclésiaste parce que vous savez qu'au chapitre 12, hein, il a une description de la vieillesse qui est très poétique. Vous savez, il ne va pas dire que les cheveux blanchissent, il va dire la mendier fleurit. Hein. Il ne va pas dire qu'on devient sourd, il va dire les portes se ferment sur la rue. Hein. Il ne va pas dire qu'on perd ses dents, hein, il va dire la meule cesse de fonctionner. Hein, très poétique, j'aime beaucoup ce passage-là. Hein, la carpe n'a plus de goût, donc voilà. Hein, la sauterelle devient pesante. Et alors, puis après, alors, il continue avec la même poésie pour décrire la mort. Donc, il donne quatre images hein, qui sont très poétiques. Vous voyez au chapitre 12, c'est au verset, là, donc, verset 6. Vous voyez. Maintenant, non, c'est verset 8 là. Avant que le cordon d'argent, voyez, ne se détache, le vase d'or se brise, boum, le seau se rompt à la source, la roue se casse sur la citerne. Donc, mais ça veut dire qu'un seul coup, voyez, c'est brutal. Dans ces images-là, ça veut dire qu'un seul coup, hop, la mort survient. Et ça donne un côté d'une part dérisoire à la vie, quel que soit, je dirais, le mode de vie de chacun, hein, ça devient dérisoire parce que la mort, elle est là comme une cassure nette. Et surtout, eh bien, bon, il va dire qu'elle frappe aussi bien le sage que l'insensé, donc aussi bien l'homme que l'animal. Hein. Mais surtout, il dit, ce qui est encore plus dérisoire, c'est que quand on s'en va, hein, allez, vous allez lire avec moi, regardez. 2, voilà. Donc, 18 à 22. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil, dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Qui sait s'il sera sage ou insensé? Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore une vanité. J'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Car tel homme a travaillé avec sagesse, science, succès, il laisse le produit de son travail à un homme qui s'en est point occupé. C'est encore là une vanité. Que revient-il à l'homme de tout son travail, etc. Bon. Ça veut dire que je laisse tout. Et qu'est-ce que va faire celui qui va récupérer ça? Il y en a qui ne l'ont pas mérité, puis il y en a qui vont gaspiller. Donc, illusion. D'accord? Alors, il se repose la question, on s'impose tous. Alors, que faire pour échapper à la condition humaine? Et si on ne peut pas échapper, je veux dire, si on ne peut pas éviter la mort? Eh bien, il va y avoir une réponse qui est assez pragmatique. Mais il va dire, puisque la vie apporte son lot de bonnes choses et de mauvaises choses, essayons, il n'a pas tort, d'apprécier les bonnes choses. Et c'est là qu'il fait une réflexion qui est sage, il dit, il y a un temps pour tout. Eh oui, regardez, chapitre 3. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Et si c'est le moment de rire et de danser, rions et dansons. Eh oui, on va quand même pas s'en priver. D'autant que pour lui, Dieu est toujours présent. Ça veut dire que Dieu hein, va donner son accord hein, à ce qu'on fait. Hein, si c'est le temps de rire et de danser, je ne vois pas en quoi Dieu va se réjouir. Si c'est le temps de pleurer, ben, Dieu s'attend à ce qu'on pleure. Bon. Mais il y a toujours cette, chez le maître, cette conscience que Dieu il est présent dans tout ce qu'on fait. Et ça va même plus loin. Et pour lui, tout ce que Dieu fait est parfait. Son œuvre est parfaite. On a lu le verset 3.11, j'ai considéré donc les différentes occupations auxquelles Dieu impose aux hommes. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Ça veut dire que l'œuvre de Dieu, elle est parfaite. Et elle dépasse le côté apparemment absurde qu'on peut constater. Donc, petite réflexion hein, entre nous. C'est vrai que parfois, on peut se dire que tout va mal, que tout va très mal. On peut même s'inquiéter. Mais vous savez, Dieu est souverain de toutes choses. Il a un projet pour notre monde, et c'est un bon projet. Hein? Bon, vous rappelez ce que disait par exemple hein, Dieu, par le prophète Jérémie, là, je connais les projets que j'ai conçus pour vous, des projets, des bons projets, projets de paix, non de malheur. Bon, hein? C'est Jérémy 29-11. Bon. Et on vit une époque où, effectivement, les spécialistes eux-mêmes, bon, ils s'affolent un peu parce qu'ils voient cette population qui ne cesse d'augmenter, les ressources de la planète qui ne cessent de diminuer, c'est vrai. Hein. Et l'homme s'ingénie, effectivement, eh bien, en quête d'énergie nouvelle. On explore même l'espace, on s'imagine qu'un jour, peut-être, on devra aller vivre sur une planète. Enfin, bon, hein. Tous nos spécialistes là, bon, se mettent un petit peu à rêver, à se casser un peu la tête aussi, comment on va faire. Bon. Mais ils oublient une chose, hein, quelque part. Dieu l'a fait une œuvre parfaite. Donc Dieu sait. Hein, et il nous a même fait savoir qu'un jour, cette planète Terre va disparaître. Apocalypse 21. Hein, vous savez, hein, nouvelle Terre, nouveau ciel. Bon. Ça veut dire que ce monde est appelé à disparaître. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre soin. Mais même les écolos, hein, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent. Hein, et prenons soin de la planète. Mais ça n'empêchera pas qu'un jour, elle disparaîtra. Bon, ça, il faut en être conscient. Donc, okay, j'irais falloir, ça va regarder au-delà des apparences, au-delà de ce qu'on peut. Et surtout que cette notion d'éternité, eh bien, elle donne un éclairage particulier à ce qu'on vit. Et ça doit susciter l'espérance, hein, parce qu'en fait, c'est vrai que la vie sur Terre, elle peut paraître absurde, mais qu'est-ce qui va faire la différence un jour? Eh bien, ça sera dans l'au-delà qu'il y aura la différence. Et si un temps pour vivre, un temps pour mourir, arrive le temps du jugement. Et là, le maître, il en est conscient aussi, parce qu'on aura des comptes à rendre à Dieu. Dieu m'a jugé, le juste et l'injuste. Chapitre 3, on va lire versets 16 et 17. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté, qu'au lieu établi pour la justice, il y a la... Non. Au lieu établi pour juger, il y a la méchanceté. Au lieu établi pour la justice, il y a la méchanceté. J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a un temps pour toute chose et pour toute œuvre. Et si vous regardez aussi, hein, prenez 12.1, par exemple, vous voyez, 12.1, il nous dit, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et sous le regard de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Et le dernier verset d'Ecclésiaste, Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc, le maître a cette conscience aiguë qu'un jour, on aura des comptes à rendre à Dieu. D'accord ? Donc, s'il nous invite à profiter des joies de la vie, hein, eh bien, c'est quand même dans une soumission au Créateur, toujours. Hein. Tout dépend de Dieu. Et donc, à cette conscience qu'on aura des comptes à rendre, il y a surtout cette exhortation à respecter Dieu, à craindre Dieu. Et là, il y a beaucoup de citations, je ne vais pas toutes les citer, mais par exemple, 8.12, je sais que le bonheur est pour ceux qui révèrent Dieu parce qu'ils le révèrent. Mais il n'y aura pas de bonheur pour le méchant parce qu'il ne révère pas Dieu. Révérer ou craindre Dieu. 12.15, écoute bien la conclusion donc, hein, de tout ce discours. Sois rempli de respect pour Dieu, obéis à ses commandements, c'est là l'essentiel pour l'homme. Bon, ça reprend ce que disait Proverbe 1.7, vous connaissez le commencement. Le principe, enfin, la clé de la sagesse, c'est crainte de Dieu, crainte, respecter. Donc, il y a cette exhortation, cette conscience qu'il faut vraiment craindre Dieu, donc craindre de faire ce qui lui déplaît, bien sûr. Hein. Dieu est grand, il est infini, il est au-dessus de tout, et l'homme, il est vraiment... On est peu de choses, hein. On fait que passer sur Terre pour... Vraiment, on n'est pas grand-chose, mais Dieu s'attend à ce qu'on soit dans ses projets, dans ses plans. Donc tout de suite, là, on voit, on n'est pas, vous voyez, quand on dit profitez, il dit réjouissez-vous, profitez de la vie, des plaisirs que Dieu vous donne, on n'est pas dans un, vous savez, dans un hédonisme à outrance, vous savez, une jouissance débridée, comme du temps des Grecs, les épicuriens, hein, carpe diem, profite de la journée. Là. Non, tu fais ça sous le regard de Dieu, si Dieu t'approuve, vas-y, mais si Dieu n'est pas d'accord avec ce que tu fais, attention. D'accord. Et à ce stade de la réflexion, bien, ça va, vous suivez toujours, vous savez, la pensée du maître, elle est riche, sa pensée, elle est complexe, mais non. Donc, pour lui, Dieu fait toutes bonnes choses, les projets de Dieu sont bons. Mais il n'empêche que ce que je vois autour de moi, ça va mal. Bon. Alors, il a fait un premier constat que tout revenait sans arrêt, donc les lois de la nature et tout ça, on n'y peut rien. Mais il s'aperçoit que tout ce qui va mal aussi maintenant, c'est de la responsabilité de l'homme. Eh oui. Donc il va refaire le tableau, il refait un nouveau tableau de tout ce qui va mal, mais là il a raison, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, parce que le tableau c'est ce qu'on voit nous, encore de nos jours, ça n'a pas changé. Donc là vous pourrez relire, je ne vais pas lire, c'est des versets, donc du chapitre 3.16 à 4.16, il y a toute une énumération de ce qui va mal sur terre, mais à cause de l'homme. Méchanceté, injustice, oppression, je ne vous donne pas les références, rivalité, paresse, égoïsme, instabilité du pouvoir, amour des richesses et déceptions qui en coulent. Donc, ce qui dénonçait, c'est toujours là, parce qu'en fait, c'est l'homme qui est responsable. Donc, pour lui, Dieu a pourtant créé l'homme pour qu'il soit heureux sur terre. Ça, il en est convaincu. On est sur terre pour être heureux. 9.7, je vous l'ai lu, mais bon, on va le relire, 9.7. Ça fait du bien de relire des versets comme ça, quand même. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donnée sous le ciel, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Là, il est en train de dire... C'est pas ça. Va, mange avec joie ton pain, bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Dieu est content qu'on soit heureux. On ne peut pas ne pas être d'accord avec ça. On est sur terre pour être heureux. Et il va plus loin. C'est à ce moment-là, il dit, quelqu'un qui vient sur terre qui n'est pas heureux, il aurait mieux fait de ne pas venir. Et c'est logique. Il écrit en 6, chapitre 6, 3, 6, un homme peut avoir 100 enfants et vivre de longues années. S'il n'a pas joui du bonheur, un enfant mort-né a un sort meilleur que lui. Surtout dans la perspective de certains que la mort, c'est la fin de tout. Verset 6, à quoi bon vivre 2 fois 1000 ans si on ne goûte pas au bonheur? C'est vrai, Dieu veut qu'on soit heureux. Mais attention, le bonheur, on l'a compris, ne va pas venir des choses extérieures, ne va pas venir d'un contexte particulier. Il va venir si Dieu peut le mettre dans notre cœur. On en est conscient. Et là encore, on est dans un monde, les gens veulent être heureux, et ils ont raison, c'est normal. Mais attention, il faut qu'ils sachent bien que ce soit Pierre, Paul, Jacques et tout, qui prend le pouvoir dans tel ou tel pays, c'est pas ça qui leur donnera le bonheur. Eh oui, on en est conscient. C'est au-delà du cadre des institutions, ça va être au-delà de tout ça, mais à nous, chrétiens, qui savons, la recette, on doit la connaître, j'espère que vous la connaissez, ce sera à nous de faire comprendre aux gens qu'effectivement, il n'y a que Dieu qui peut rendre heureux. Donc, quand on a un pays où on a des gens qui nous dirigent, qui non seulement ne craignent pas Dieu, ou font voter des lois contre Dieu, ne nous attendons pas à être spécialement bénis. Eh oui. Donc, notre prière, ça, c'est toujours vraiment pour que les autorités aient cette crainte de Dieu, et aussi dans leur façon de diriger le pays, c'est sûr. Et le maître, il va poursuivre même sa réflexion. Il dit, puisque Dieu nous a créés heureux, donc, eh bien, puisqu'on est dans un monde qui va mal, eh bien, essayons en sorte, et ça peut étonner, mais vous allez comprendre. Lui, ça veut dire, soyons sages en ce sens, eh bien, ayons l'art de bien vivre dans un monde qui est corrompu. C'est-à-dire, il va donner une suite de conseils pour avoir un peu l'équilibre, je dirais, entre les extrêmes, à savoir, c'est comme des garde-fous, si vous voulez, parce qu'il est convaincu d'une chose, et c'est son expérience. Qui lui dit, il dira, j'ai vu, j'ai constaté, il a vu les conséquences des actes que chacun pose, et il va dire, écoutez, si vous voulez éviter, bon, il y a le voleur qui se retrouve en prison, je ne sais pas, il y a celui qui va tuer, il va dire, finalement, même indépendamment des commandements de Dieu, il va dire, si vous ne voulez pas récolter des conséquences dramatiques de vos actes, essayez de ne pas poser ces actes-là. Et dans les conseils qu'il donne à partir du chapitre 7, il va dire, par exemple, soigner sa réputation. Pour nous, chrétiens, ça veut dire, je traduis autrement, veillons à notre témoignage en tant que chrétien. Ne pas fuir la réalité du malheur, ça veut dire qu'on aura des périodes d'épreuves. Et oui, il faut les affronter. Hier, au cours de base, on a vu ce qu'est l'épreuve et ce qu'est la tentation. Et l'épreuve, elle est voulue par Dieu pour que notre foi s'enracine dans sa parole et qu'elle augmente, qu'elle grandisse. Il va dire, c'est faire preuve de patience. Pourquoi? Parce qu'on a un Dieu qui est hors du temps, on voudrait que ça arrive. Patient. Dieu, il sait. Donc, soyons patients. Il dira, ne tombez pas dans une nostalgie qui va dénigrer le présent et ne pas pratiquer la justice dans un rigorisme, un perfectionnisme. Ne cherchons pas le perfectionnisme, on est dans un monde qui n'est pas idéal. Désolé. Même si Jésus est venu pour nous sauver, le monde dans lequel on vit, il est toujours Eh oui. Hein. Donc, dans les conséquences du péché. Et lisez avec moi, chapitre 7, versets 26-28. J'ai trouvé plus amère que la mort, la femme dont le cœur est un piège, etc. Bon, 27, oui. Voici ce que j'ai trouvé, dit-il, en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Voici ce que mon âme cherche encore que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles du tout, toutes entre elles toutes. Vous vous rendez compte? Ah, il a trouvé un homme, bien, pas de femme. Vous savez pourquoi? Je commente quand même. Parce qu'en fait, il a eu tellement de femmes qu'il n'a pas connu le bonheur que c'est d'avoir une seule femme. Le bonheur conjugal, il n'a pas trouvé. Et puis, il y a une autre explication. Il y a une autre explication, c'est que surtout, ne cherchez pas ni l'homme idéal, ni la femme idéale. Là, il se prend. Oui. Mais quand, donc faut relativiser, pour lui, il faut relativiser un petit peu. On relativise. Hein, il y a beaucoup de choses tordues, il va dire, qu'on ne peut pas redresser. On l'a vu à verset 1,15. Et beaucoup de manques qu'on ne peut pas combler. Mais attention, ça ne veut pas dire non plus. Relativiser, ça ne veut pas dire je m'en fiche. C'est pas du je m'en foutisme. Relativiser, ça veut dire je prends un peu de hauteur par rapport à mon quotidien, par rapport à ce qu'on vit. J'essaie de voir les choses sous le regard de Dieu. Oui. Il faut changer un peu le zoom. Bon. Hein, les problèmes, ils deviennent plus petits quand on prend un peu de hauteur. Il faut relativiser. Bon, d'accord. D'autant que Dieu donc, avait un projet initial. Alors, la question, c'est, est-ce que Dieu avait pensé sa création ainsi? Donc, est-ce que c'est conforme au projet conçu par Dieu? Ce n'était pas ce que Dieu avait voulu. Dieu savait, mais au départ, ce n'est quand même pas ce qu'il voulait. Bon. Et pour lui, donc, le maître, c'est non, ce n'est pas conforme à ce que Dieu voulait. Sans se douter, puisqu'il a déjà dit que Dieu fait toutes choses belles, mais il rajoute hein, 7, 29, donc voilà la seule chose que j'ai trouvée, Dieu a fait les hommes droits, eux ont cherché beaucoup de complications. Dieu a fait les hommes droits, ça veut dire que Dieu a orienté sa créature entièrement vers la droiture. Mais ça va mal parce que c'est à cause de l'homme. Et c'est là qu'on retrouve l'explication, effectivement, de cette désobéissance donc, de l'homme à son créateur. La raison de ce que ça va mal, c'est parce que c'est le péché et les conséquences du péché. Donc l'homme est responsable de sa situation, hein, et s'il n'avait pas désobéi à Dieu, les conditions de vie sur terre auraient été différentes, c'est sûr. Rappelez-vous Genèse chapitre 3, quand Dieu va annoncer son châtiment, il dira donc à la femme, tes grossesses sont pénibles, hein, l'homme va dominer sur toi, le sol sera maudit. Ça, c'est à l'homme, hein, c'est-à-dire qu'il y aura des épines, des ronces, tu auras du mal à cultiver la terre, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes au sol dont tu as été tiré, tu es poussière, tu retourneras en poussière. Tu es poussière. Ecclésiaste, vous voyez, on trouve un écho là, en 3:20, il dit, tout va vers la même destination, tout a été tiré de la poussière, tout retourne à la poussière. Et donc, effectivement, il faut être conscient qu'on est dans un monde qui est sous les conséquences de la désobéissance de l'homme. Bon. Paul va faire référence à cette situation dans Romains 8, 19, 21. Vous pouvez prendre le verset parce que c'est quand même important de lire ce qu'écrit Paul, Romains 8, 19 à 21. L'Écriture, c'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. Car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité, cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance, c'est d'accéder à la liberté, c'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de la corruption, qu'il a servi pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Donc, Paul évoque cette délivrance, en fait, que Jésus nous a apportée, bien sûr, et cette espérance de voir un jour cette délivrance de la corruption complètement réalisée et quand on sera dans la gloire. Bon, ça c'est à venir, c'est le monde dans lequel on est tant qu'on sera dans notre corps, mais pour l'instant il y aura toujours ce lot de misère, de peine, de déception, de frustration, Mais merci Jésus quand même d'avoir pourvu à une solution. Bon. Donc maintenant, il faut se poser quand même la question, est-ce que face à ce réalisme du maître, parce que je reviens quand même, c'est vrai, on peut se dire, est-ce qu'il y a quand même des raisons d'espérer? Et vous l'avez compris, je pense déjà. Oui, il y a des raisons d'espérer. Je vous en rappelle quelques-unes qui ont été évoquées. Il y a un bonheur pour ceux qui rêvent vers Dieu. 8-12. Bon. Dieu demeure souverain. Et les créatures que nous sommes sont dans sa main. C'est en 9-1. Je ne sais pas si on l'a lu. J'ai beaucoup réfléchi à tout cela. Tout ce que j'ai compris, les justes, les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu. Donc on est dans la main de Dieu. Dieu maîtrise les temps, les circonstances. On n'est pas livré à un hasard aveugle. Dieu veille et dirige. Bon. Ensuite, on a vu que tout ce que Dieu fait est bon. Il a fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être, de la pensée et l'éternité. Ça veut dire que cette éternité doit toujours jeter un regard qui relativise par rapport à ce qu'on peut vivre dans le présent. C'est vrai. Et au regard de Dieu, l'histoire, elle a un sens. Même si l'homme est incapable de comprendre, Dieu fait que toute chose concourt au bien ceux qu'il aime. Romains 8:28. Et il a commencé une œuvre qui est parfaite et il va l'amener à la perfection, Jésus-Christ, Philippiens. Hein, donc, insiste. Donc, soyons pratiques. Bon, d'une part, il ne faut pas tout voir en noir. Si il y avait des pessimistes parmi vous, là, non, c'est pas bon. Il n'y a pas que des côtés négatifs. Bon. La vie vaut la peine d'être vécue. Vous savez que même le maître, quand il dit un chien vivant, vaut mieux qu'un lion mort, nous, en français, on dira, tant qu'il y a de la vie, il y a d'espoir. Eh oui, bon, c'est du bon sens. Hein. Mais, et donc, il invite à faire confiance à Dieu, qu'il faut craindre, qu'il faut respecter, bien sûr. Il faut profiter des petites joies simples que Dieu nous donne. Quand c'est le moment de se réjouir, réjouissons-nous. Mais en sachant toujours que, attention, moi, la formule, je la traduis comme ça, user sans abuser, mais sous le regard de Dieu, de façon à savoir que Dieu nous approuve. Donc, parce que si Dieu désapprouve, c'est-à-dire que si j'abuse et que Dieu n'est plus d'accord, attention. Mais pour le reste, mais réjouissons-nous. Et si Dieu a un bon projet, ben rentrons dans ce projet, ne baissons pas les bras. Donc, maintenant, il faut quand même revenir à la situation que nous vivons en ce moment, que notre pays vit. Vous savez, il ne faut pas se faire d'illusions. Les années qui sont devant nous, elles seront difficiles. Eh oui. Mais quand c'est difficile, j'espère qu'il n'y aura quand même pas trop de révolution, bon, mais beaucoup de cœurs seront retournés. Le paysan que je suis devenu, je suis à la retraite, bon, je cultive mon jardin, avant d'ensemencer, il faut que je retourne la terre. Eh oui. Beaucoup auront le cœur retourné par ce qu'ils vont vivre. Eh bien, c'est quand le cœur est retourné que la parole de Dieu peut être plantée. Tant que vous avez le cœur endurci, fermé, la parole, elle ne va pas s'enraciner. Les circonstances qui troublent, qui vous retournent, permettent à la semence de la parole de Dieu d'être déposée dans le cœur. Et donc, pour moi c'est donc c'est ce qui va se passer, hein, le jour où quelqu'un va recevoir cette parole de Dieu et que la vie de Jésus va commencer donc à se développer, qu'il va recevoir la vie de Jésus en lui, là ça, il va se passer une chose, c'est que tous les jours, il y aura quelque chose de nouveau. Parce que le Saint-Esprit, à partir du moment où il va prendre le contrôle de quelqu'un, ça va être l'inverse de ce que disait le maître. Voilà. Rien de nouveau sous le soleil, non. Pour quelqu'un qui a la vie de Jésus en lui, c'est tous les jours il y a du neuf. Eh oui, bon, mais le maître, il ne savait pas ça. Hein. À l'époque où ça a été écrit, il n'y avait pas cette pleine révélation de ce que Jésus a permis donc, de faire dans le cœur de chacun. Et donc, et n'oublions pas non plus, donc, et s'il y a un temps pour tout, je crois qu'en ce moment, le temps, il est à la prière. Mais oui. Hein, et c'est vrai que Marc le rappelait, mais des fois on est un peu désolé, mais Seigneur fait de nous des hommes et des femmes de prière. Hein, moi je ne vous cache pas que, bon, là je ne vise personne, hein, mais la dernière fois, enfin je me souviens, il y avait un jeûne de prière. L'église était pleine. On demandait à l'église de rester 2 heures de plus pour prier pour les besoins de l'église. 2 heures de plus. Bon, une quinzaine de personnes sont restées. Je crois que c'est un triste Dieu ça. Parce que ça veut dire qu'on n'a plus 2 heures à lui donner. On a des priorités. Attention, je veux bien. Mais ça fait beaucoup. Hein. Et il y a peu qui reste. Je crois que là, des fois, on demande à Dieu des choses, mais on n'est pas prêt à payer le prix. Hein. Enfin, se pose la question. Hein. Mais il y a un temps pour prier. Après, il y aura un temps pour aller retrouver les amis, il y aura un temps pour se réjouir hein, en famille. Mais quand c'est le temps de rester là pour prier, on reste quand même. Eh oui. Enfin, moi, je vous le dis. Bon. C'est pas Marc qui me demande, qui m'a dit de le dire. Non, mais Marc, peut-être qu'il ne sera pas d'accord. Mais moi, je le dis parce que j'en suis conscient. Et ça m'a un peu attristé, je vous le dis. Bon. Parce que j'estime qu'il faut quand même, des fois, ça va. Soyons logiques quand même avec nos attentes. Et donc, alors, pour moi, c'est vrai que le futur président, il ferait bien de relire un peu tout ça, c'est sûr. Hein. Mais de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions. Mais Dieu veut qu'on soit heureux. Dieu veut qu'on le connaisse et il va tout faire, de toute façon, pour que le maximum de gens le connaissent. Mais l'esprit humain est ainsi fait qu'il n'y a que quand ça va mal qu'on se tourne vers Dieu. Eh oui. Alors, je ne souhaite pas, mais si on en arrive, si Dieu, si dans le plan de Dieu, il va permettre que ça aille mal pour que les cœurs se tournent vers Dieu, eh bien, je me réjouirai, parce que ce sera le moment. Eh bien, que des gens vont trouver le salut, parce qu'ils sont non pas vers l'homme politique, non pas vers les institutions, ils vont se tourner vers Dieu. Eh oui, hein, je crois que c'est quand même bon de se le redire, parce qu'à un moment où on ne sait pas trop, hein. Donc soyons conscients, soyons prêts, surtout à répondre, je dirais, hein, à tous ces gens qui m'ont un petit peu perdu, mais nous, hein, on sait qu'on ne marche pas derrière un homme, mais derrière Jésus, et Jésus, ben, il sera toujours là, et il sera toujours capable de changer les vies, donc c'est important. Voilà, donc c'est tout un programme qui est toujours actualité. Rien n'est au-dessus du soleil, oui, mais avec nous on a ce plus, c'est notre foi en Jésus, puis l'assurance de la vie éternelle, plus ça. Et je vous invite, on va quand même prier quelques instants quand même pour notre pays et puis pour chacun de nous, hein, que Dieu puisse réaliser ses projets. Seigneur, nous voulons encore ce matin vraiment nous mettre devant toi, devant ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui nous a donné la vie, qui nous a fait venir sur cette terre. Seigneur, pour être heureux, même au travers des difficultés, au travers des épreuves, au travers des situations difficiles, Seigneur, tu veux que nous soyons heureux, Seigneur. Et nous sommes conscients que c'est l'aspiration de beaucoup de gens dans ce pays, de pratiquement de tout le monde d'ailleurs, sauf que beaucoup n'ont pas compris que ce bonheur, il n'y a que toi qui peux le donner. Hein, c'est ce bonheur que tu mets dans le cœur, Seigneur. Et il est normal que chacun puisse s'exprimer, Seigneur. On n'est pas là pour juger l'un, pour juger l'autre dans ses convictions, Seigneur. On respecte chacun dans sa différence. Et tu respectes, Seigneur, mais ce qu'on veut, c'est que tes projets s'accomplissent. Et on sait qu'à long terme, c'est tes projets, c'est que notre pays, Seigneur, eh bien, que tu puisses régner sur ce pays, Seigneur. Que tu puisses régner sur le monde. Hein. C'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, Seigneur. C'est cette attente de voir beaucoup d'hommes et de femmes se tourner vers toi, Seigneur. Et nous te prions pour que tu puisses utiliser chacun de nous, Seigneur, dans cette période difficile, pour que notre cœur reste en paix, Seigneur, quelles que soient nos affinités, Seigneur, pas de politique, ça c'est vraiment pas le principal, Seigneur. Ce qu'il faut savoir, le souci de l'autre, le souci, bien que chacun puisse se mettre en relation avec toi, Seigneur, et recevoir de toi, ce salut, la vie de Jésus, et qui permettra à chacun, effectivement, de vivre la situation autrement, Seigneur. Donne-nous vraiment cette sagesse, Seigneur. Merci encore pour ces propos que nous avons lus dans ta parole, qui sont là pour, en un sens, consoler nos cœurs, qui parfois sont un peu bousculés, Seigneur, mais aussi pour nous exhorter vraiment à aller de l'avant. On a un message à transmettre, Seigneur, qu'on soit aussi nous, c'est militant, mais on veut militer pour toi, Seigneur, au-delà de cet aspect politique, Seigneur, on a vraiment quelqu'un pour le faire connaître, Seigneur. On marche à ta suite, on est heureux de porter ton nom, Seigneur, ce nom qui sauve, et merci encore, Seigneur. Tu bénis chacun des frères et sœurs qui sont là, Seigneur, tu bénis ceux qui sont aussi en week-end à l'occasion de ce 1er mai, Seigneur, ceux qui, mais que chacun puisse trouver sa place dans cette église, que chacun puisse avoir une foi qui s'épanouisse, Seigneur, dans cette relation fraternel, Seigneur. Et d'avance aussi, tu prépares la prochaine assemblée générale, Seigneur. C'est important que chacun se sente concerné, Seigneur, par cette vie d'église. Et Seigneur, merci encore. Merci de nous avoir rassemblés ce matin. Et que nous puissions partir, encouragés par ta parole. Je te le demande. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.